Communication du commandant.
Géopolitique.
L'honneur.
Analyse.
Les marins.
Débat.
Poste de combat.
Périscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Patrick Sauce.
Alors ça, évidemment, tout l'aspect géopolitique, on va y revenir après, mais on a bien compris que tout le monde avait fait à peu près le même constat, mais qu'en est-il de la prise de conscience véritable par les États? Ça fait 20 ans que la maison brûle, selon Jacques Chirac, et maintenant ce sont les responsables du politique du Pacifique qui tentent de convaincre les grandes puissances, et bien qu'il faut passer la seconde, un appel qui avait été relayé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, c'était en ouverture de la COP27 à Sharm el-Sheikh, c'était en novembre 2022.
Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points.
Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Les températures mondiales continuent d'augmenter. Et notre planète approche rapidement des points de bascule qui rendront le chaos climatique irréversible. Nous sommes sur la route de l'enfer climatique. La guerre en Ukraine et d'autres conflits, bien sûr. Beaucoup de sang et de violence qui ont des conséquences dramatiques partout dans le monde. Mais nous ne pouvons pas accepter que notre attention ne soit pas concentrée sur le changement climatique. Nous devons bien sûr travailler ensemble pour soutenir les efforts de paix et ensuite le changement climatique qui se situe sur une chronologie différente. Une différence à grande échelle. C'est une question déterminante de notre époque. C'est le défi central de notre siècle.
Des mots très forts prononcés en l'absence des présidents américains et chinois, ce qui donne déjà un élément de réponse sur la prise de conscience. Commandant, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup parlé de réduction des effets de serre, on a vu les tout derniers chiffres entre l'objectif et ce qui est fait véritablement. Forcément, encore une fois, on montre des images d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est et pas forcément des images de mer qui monte sur des petits atolls avec des sacs de sable. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? La réponse est évidemment difficile. Moi, je me rappelle déjà lors de la COP26, cette fameuse déclaration du ministre des Affaires étrangères, les pieds dans l'eau, en train d'exprimer le désarroi qui était celui de sa population vis-à-vis de la montée des eaux sur les Tuvalu. Donc la problématique est déjà bien maîtrisée et bien connue, malheureusement, j'allais dire, de cette région. Je veux juste peut-être rappeler aussi que c'est un problème qui est jugé existentiel par les États du Pacifique insulaire. On peut rappeler peut-être la déclaration de Beau de 2018, hein, qui fait état d'un certain nombre de domaines prioritaires s'agissant de cette région du Pacifique insulaire, dont la résilience au changement climatique et la capacité à gérer ce que j'appellerais l'ensemble des conséquences inhérentes à ce changement climatique, qu'il s'agisse de l'amplification des phénomènes météorologiques ou qu'il s'agisse des phénomènes d'élévation du niveau de la mer qu'on a évoqué. Donc ça, c'est une prise de conscience qui déjà existe. Hein, depuis 2018, elle est formalisée à travers cette déclaration de Beau. Et évidemment, la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande en particulier la soutiennent et font en sorte que dans l'ensemble des structures, des partenariats sur lesquels on peut revenir par la suite, qui existent dans cette région, il y a une véritable prise de conscience quant au fait que le changement climatique est un problème existentiel dans cette région. Ça a été évoqué à l'instant même concernant les conséquences sur les populations, sur le fait qu'il y a un certain nombre de territoires qui déjà, dans les Tuvalu, disparaissent. Je pense aussi au Tuamotu pour la Polynésie française, qui a une hauteur de 1,5 mètre de mémoire et qui est donc extrêmement vulnérable. Et donc c'est effectivement un enjeu majeur. Bon, qu'est-ce qu'on fait derrière tout cela? Bon, déjà, il y a des structures qui existent. On a parlé d'un certain nombre d'entre elles déjà sur la première partie. Je rappellerai aussi que dans quelques semaines aura lieu le SDPMM, donc qui est la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud, à laquelle le ministre français, M. Le Cornu, se rendra, et qui aura lieu à Nouméa. Donc la France, pour la première fois, je crois, le recevra donc, sur un territoire ultramarin français. Il me semble, sans vouloir faire de teasing mal placé, qu'il y ait un sujet changement climatique extrêmement structurant, considérant qui plus est que l'actualité s'y prête, hein, puisque je rappelle que la semaine passée, le cyclone Lola, si je ne corche pas son nom, est passé par les Vanuatu, et que la France a été là aussi au répondant, si je puis dire, de l'appel des autorités des Vanuatu en mettant en place un Falcon pour un certain nombre de missions de surveillance et de reconnaissance, en disposant un Puma pour des soutiens médicaux et d'urgence. Donc il y a des dispositions comme ça qui existent, et je pense que l'actualité s'y prête. Et puis il y a d'autres structures qui existent déjà dans cette région du Pacifique insulaire, que sont l'Accord France, sur lequel il faut absolument être fier, puisqu'il a quand même montré, cet accord a déjà montré un certain nombre de satisfactions, notamment lors de l'éruption volcanique de Unga Tonga en janvier 2022 sur les Tonga, où l'accord France a été mis en œuvre et a apporté un certain nombre de satisfecit, je pense, sur le plan militaire, sur le plan de la réaction coordonnée des différents États membres. Donc cet accord France, entre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, fonctionne correctement et permet de faire face à un certain nombre de catastrophes naturelles et humanitaires lorsque c'est nécessaire dans les États du Pacifique insulaire. Donc il y a des structures existantes. Bien évidemment, je pense que le constat, c'est qu'il y a malgré tout une forme d'éclatement des dispositions mises en œuvre, des structures mises en œuvre, que chacune des grandes puissances, finalement, essaye aussi de structurer une réponse multilatérale avec sa propre perspective et ses propres intérêts. Et donc la Chine et les États-Unis en premier lieu, mais aussi un autre nombre d'acteurs régionaux, l'Australie en particulier, essaye effectivement de modeler les réponses multilatérales, régionales, sur la base de ses propres intérêts. Donc aujourd'hui, une structure assez éclatée et hétéroclite, me semble-t-il.
Géraldine Giraudeau, je comprends qu'il y a des initiatives, notamment de la France, mais le droit, que peut-il, ce que comprennent les gens, c'est que sur tous ces objectifs qui sont fixés, notamment par les COP, il n'y a rien de véritablement contraignant et que chacun, avec ses amis ou ses alliés, fait un petit peu ce qu'il veut ou peut.
Oui, le droit du climat est un droit qui est encore en développement et pour l'instant, les réponses qui sont apportées sont peu satisfaisantes puisque la preuve, les effets en sont assez limités. Si on prend l'accord de Paris, par exemple, c'est un accord hybride où il y a surtout nous, ce qu'on appelle de la soft law, du droit mou et quelques dispositions effectivement de nature contraignante. Donc ce qu'on observe, c'est quand même un mouvement qui part à la fois de la société civile et aussi justement des États insulaires du Pacifique en particulier, pour venir mettre les États émetteurs face à leurs responsabilités en utilisant des outils, notamment les outils juridiques, par le biais d'actions devant des juridictions. Et ça, c'est assez intéressant à observer parce que ça relève aussi d'un changement de narratif au sein duquel les États du Pacifique, veulent casser un petit peu ce discours de vulnérabilité. Et donc, pour le dire autrement, montrer qu'ils sont en première ligne des effets du changement climatique, mais aussi en première ligne du combat qui peut être mené.
Ils ne sont pas de simples victimes.
Voilà, ils n'attendent pas. D'ailleurs, c'est le slogan de certaines associations là-bas. On n'est pas en train de se noyer, on est en train de se battre. Et donc, ils ont, depuis quelques années, été à l'initiative d'actions très intéressantes et notamment, pour en citer quelques-unes, alors de déclarations déjà politiques fortes, la déclaration de Beau a été citée dans le cadre du Forum des îles du Pacifique, qui est le principal cadre de coopération politique dont sont membres d'ailleurs la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, et puis un certain nombre de procédures, notamment pour solliciter un avis récemment du Tribunal international du droit de la mer sur le droit de la mer et le changement climatique, et aussi devant la Cour internationale de justice. C'est une initiative qui part d'un groupe d'étudiants à la base, mais qui a été ensuite portée par le Vanuatu, pour solliciter un avis sur changement climatique et droit international, pratiquement, je dirais, parce que les questions sont très générales, elles portent sur les obligations des États et les conséquences des violations. Donc, il y a un problème de temporalité, parce que toutes ces actions, elles ne vont pas changer les choses du jour au lendemain. Mais tout cela contribue d'une action très forte, parce qu'ils alertent sur les conséquences du changement climatique depuis fort longtemps, en réalité. Ils n'étaient pas vraiment écoutés. Mais je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent que c'est en train de changer, à la fois l'intensité de la campagne qui est menée au niveau international, il y a l'émergence véritable d'une diplomatie océanienne du climat, et puis un contexte qui a changé parce que les intérêts stratégiques qui ont été identifiés dans la zone ont aussi contribué à ce qu'on tourne notre regard de façon plus attentive.
Évidemment, les arrière-pensées, on y reviendra. Élie Clé, c'est vraiment difficile ce lien entre les grands États pyromanes qui essayent de se faire pompier et ces États insulaires qui ne veulent pas être victimes. Alors, je reviens vraiment sur cet accord entre les Tuvalu et l'Australie. L'Australie, comme c'est très loin, on ne le sait peut-être pas forcément, mais c'est un gros exportateur de charbon, de gaz. L'Australie accueille bien gentiment 280, ou va accueillir, si tout se passe bien, si c'est ratifié, 280 habitants des Tuvalu par an, et donner 9,5 millions d'euros pour consolider les côtes, en gros mettre des sacs plastiques remplis de sable, pour aider tant que faire se peut les Tuvalu. Vous qui connaissez ces états insulaires, quel est justement l'avis de ces populations, le sentiment face à des gens et des états qui ont été les puissances, hein. On le rappelle, tous ces confettis finalement sont passés sous le pavillon américain, parfois britannique, parfois sous occupation japonaise, et maintenant qu'ils sont tout seuls, eh bien on revient à eux de façon assez délicate, parce qu'il y a encore une fois des arrière-pensées. Que pensent ces états de ces aides en devenir ?
Tout à fait, c'est un sentiment qui est complexe, qui est mitigé entre une nécessité d'aide, parce que c'est des États qui ont des ressources financières qui sont extrêmement limitées. La capacité d'adaptation d'un État au changement climatique est directement indexée sur ses capacités financières. C'est des États, pour certains, qui ont que quelques dizaines de millions de dollars de PIB annuel, donc c'est extrêmement faible. Ça leur laisse une marge d'adaptation très très réduite vis-à-vis de la montée des eaux. Et en même temps, c'est évident que si l'Australie, et elle l'a annoncé à la COP27, continue d'exploiter comme elle le fait du charbon et ensuite empile quelques sacs de sable sur la plage, c'est sûr que ces mesures sont insuffisantes et en tout cas ne permettront pas de sauver ces états insulaires. Pour l'accord, pour sa dimension migratoire, partir n'est jamais vu comme une victoire pour ces États, pour leurs ressortissants qui sont très attachés à leur terre, qui ont un lien qui est ancestral, qui est très particulier pour des populations autochtones, qui ont un lien coutumier avec leur terre et qui veulent donc par conséquent pas nécessairement être relocalisés. C'était les habitants de Nauru, je crois, et qui avaient refusé une proposition de l'Australie aussi de les relocaliser sur une île parce que leur île est quasiment inhabitable à cause de l'exploitation du phosphate. Elle est détruite à plus de 90%. Et donc, ils avaient refusé pour éviter de perdre leur culture qui leur est propre. Et c'est pour ça que cette absence systématique à ce stade de reconnaissance de droits culturels dans les accords migratoires est un problème pour la survie de ces États en tant que tels, la survie de leur culture suite à leur disparition. Et ces États font donc toute une campagne pour faire connaître les enjeux de leur disparition, la réalité de leur disparition, et essayent de faire parler d'eux au maximum dans les COP, et auprès du grand public et par des actions en responsabilité, comme ça a été dit plus tôt. Il y a eu le discours les pieds dans l'eau du ministre des Affaires étrangères de Tuvalu. Il y a eu lors de la COP27, l'annonce de Tuvalu aussi de téléverser son territoire dans le métavers, de créer une réplique dans le métavers de son territoire. Qui est à la fois un enjeu juridique pour assurer sa survie de manière virtuelle suite à la submersion de son territoire, mais aussi un enjeu médiatique extrêmement fort et un puissant outil de communication pour mieux faire connaître leur problème, qui est un problème purement existentiel.
commandant, on comprend que les grandes puissances, je pense évidemment à la France, ne peuvent plus faire de diplomatie à la papa, c'est-à-dire envoyer de l'argent, faire comme un certain nombre de puissances l'ont fait avec l'Afrique, avec beaucoup de communication et peu d'effets. Il faut penser à tout, au patrimoine culturel, on va y revenir dans 2-3 minutes, à cette possession des terres par ses habitants qui ont autant le droit de vivre sur leur état victime que nous sur le territoire métropolitain.
Oui, alors déjà de dire quand même que lors de la stratégie Indo-Pacifique qu'on a évoquée, je crois, qui a donc paru en 2019, mention a déjà été faite de ces grands enjeux globaux que sont le changement climatique, la protection de la biodiversité, des océans et j'en passe. Et le fait est qu'il y a quand même une prise de conscience, on peut s'en satisfaire, de la France s'agissant de la sensibilité, de la vulnérabilité des États du Pacifique insulaire en matière climatique. On peut malgré tout reprocher cette stratégie, à l'inverse, que possiblement elle n'ait pas été construite en co-gestion avec les territoires ultramarins et les collectivités territoriales, et que l'ensemble des directives viennent du haut, sans qu'il y ait eu de concertation amont, effectivement, avec les collectivités, pour que des mesures d'atténuation liées au changement climatique, pour qu'une politique un peu aussi locale et coordonnée puisse être mise en place entre la Nouvelle-Calédonie, les Wallis-et-Futuna et puis la Polynésie française, et qu'à la fin des fins, on a le sentiment qu'effectivement, ces territoires ultramarins soient considérés par certains comme un instrument géopolitique, plus que comme des territoires à proprement parler, sur lesquels effectivement il y a des conséquences liées au changement climatique sur les territoires, sur les populations. Et donc je pense qu'il y a là une discussion qui est en cours, hein, au moment où on se parle, vis-à-vis de cet aspect, et que j'espère que la stratégie donc, qui est censée paraître prochainement sur l'Indo-Pacifique puisse prendre en compte ces considérations-là et partir de ce que j'appelle donc les intérêts fondamentaux, c'est-à-dire les territoires ultramarins, et faire en sorte qu'on puisse construire avec les collectivités territoriales une vraie stratégie en matière de mesures d'atténuation vis-à-vis des changements climatiques. Donc ça, c'est déjà pour la France, j'allais dire, un point de départ. C'est déjà de considérer ses propres territoires comme étant l'objet d'une vulnérabilité et de faire en sorte qu'on puisse, depuis la métropole, co-construire une vraie stratégie qui parte de ces territoires ultramarins. Donc je pense que c'est en cours. Je pense que les autorités, notamment métropolitaines, en sont conscientes et que, fort d'un rapport, d'ailleurs, qui est paru l'année passée en provenance des collectivités territoriales, considérant ces aspects-là de co-gestion, je pense qu'il y aura une prise de conscience qui amènera à ce qu'il y ait un meilleur traitement sur la stratégie française s'agissant des territoires ultramarins et des conséquences sécuritaires en premier lieu sur le changement climatique.
Géraldine Giraudeau, vous qui avez exercé en Nouvelle-Calédonie, vous avez senti cette vision jacobine. Alors on le sait, Nouvelle-Calédonie ou Polynésie française, il n'y a pas que des enjeux climatiques, hein, les enjeux d'autonomie plus ou moins voulue par ces territoires. Mais est-ce que vous avez senti chez les néo-calédoniens, jusqu'à il y a peu en tout cas, ce sentiment un peu étrange d'être pris pour un territoire stratégique et pas forcément pour, non pas une victime, mais un territoire qu'il faut vraiment aider sur le champ climatique?
Alors, des Calédoniens eux-mêmes, je ne pourrais pas dire ça, d'autant que ce soit les populations calédoniennes ou autres dans le Pacifique, elles sont quand même en majorité assez éloignées de l'Indo-Pacifique et de la stratégie qui correspond, voire d'ailleurs, cette vision peut être faire l'objet de rejet de la part de certains leaders qui préfèrent parler du continent bleu plutôt que d'avoir recours à l'expression d'Indo-Pacifique. Ce qui est vrai, c'est qu'il peut y avoir, et ça a été très justement soulevé, un sentiment d'instrumentalisation de territoires ultramarins qui confèrent à la France une assise territoriale en Indo-Pacifique, où elle a d'ailleurs effectivement 93% de ses espaces maritimes sous juridiction française, donc c'est énorme, près de la moitié en Polynésie française, 4,5 millions de kilomètres carrés, et en même temps, une consultation et une association bien trop limitée de ces territoires et de leurs ressources pour élaborer et faire évoluer cette stratégie. La France, de ce point de vue-là, est dans une situation qui est d'ailleurs assez... qui peut être délicate, parce qu'elle a à la fois des parties de son territoire qui sont exposées en première ligne aux effets du changement climatique, et elle est aussi émettrice de gaz à effet de serre. Et cette, cette difficulté a pu d'ailleurs se ressentir hein, dans les le soutien qui a été apporté par exemple à la résolution pour la Cour internationale de justice, enfin pour la sollicitation de l'avis, qui est arrivée. Hein, il y avait un soutien de la France, mais peut-être un peu plus tardivement que d'autres États, parce que bien sûr, ça pose des questions importantes en termes à la fois de responsabilité.
Alors, vous avez vu, on a essayé de vraiment poser les bases de ce changement climatique, mais vous avez senti, à travers des tournures de phrases, qu'on tournait justement autour de la géopolitique, parce qu'on va y venir, toutes ces arrière-pensées stratégiques, militaires, géopolitiques. On va y revenir dans la troisième partie. Mais...
Venez d'écouter Periscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine, présenté par Patrick Sauss.